Et on est super content de reprendre avec vous. La pause était bonne ? Tout le monde est en forme ? Vous êtes prêts à poursuivre avec le Saint-Esprit ? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami qu'on peut avoir ici-bas. C'est d'être connecté avec lui et de marcher avec lui, c'est juste quelque chose de magnifique. J'avais sur mon cœur pour ce temps-là de vous parler. On va voir ensemble plusieurs passages dans la parole de Dieu qui expliquent en fait les dons spirituels. Vous êtes partants ? On s'ouvre juste à la connaissance du ciel, à la connaissance de Dieu, à ce que lui, il a prévu et on fait le choix vraiment de tout notre cœur de mettre de côté tout ce que les faux enseignements, tout ce qui était là pour nous pénaliser. Et on veut apprendre du Saint-Esprit cet après-midi. Amen ? Yes ! Alors, si vous avez des notes, vous pouvez noter deux, trois petites choses peut-être. En fait, on a réalisé que quand on donne notre vie à Jésus, quand on accepte Jésus dans notre vie, on a cette habitude de dire « Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. » Vous avez, je pense que vous avez entendu ça quand vous êtes donné votre vie à Jésus. Et en fait, dans ce royaume-là, dans cette famille-là, ça ne fonctionne pas tout à fait que de la même manière que dans notre famille naturelle. Même qu'il y a des similitudes, mais il y a des choses qui sont différentes. Et dans ce royaume-là, dans le royaume de Dieu, il y a des réalités qui sont spirituelles. Et il y a des réalités par rapport aux dons. Paul, dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 1, écrit ceci, « En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Waouh ! Paul ne voulait pas que les Corinthiens soient dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels qui font partie du royaume de Dieu. Dans certaines versions, ce n'est pas écrit les dons spirituels, mais les réalités spirituelles. Waouh ! Dons spirituels, réalités spirituelles. En fait, j'ai une bonne nouvelle, ou une mauvaise pour certains, mais une bonne pour d'autres. Les dons spirituels, les réalités spirituelles dont Paul parle ne peuvent pas être gagnés. Ils ne sont pas gagnés. Sinon, ça ne serait pas un don, ça serait un prix. Parce que tu as fait ceci ou cela, tu gagnes un prix. Tu gagnes une médaille. Avec les dons spirituels, ça ne marche pas comme ça. En fait, un don spirituel, c'est comme si... Eh bien là, je l'ai pris, il n'est pas à moi, mais c'est comme si j'ai ce stylo et je dis, je te le donne. C'est un don. Il est à lui maintenant. Il n'est plus à moi. Si je le reprends, je le vole. Ce n'est plus à moi. En fait, la définition du mot don dans le dictionnaire, c'est une action d'abandonner gratuitement, de donner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Ça, c'est la définition du Larousse ou du Robert, je ne me rappelle plus. Maintenant, dans la Bible, le mot « don » vient du mot « charisma ». Et « charisma », c'est une faveur que reçoit quelqu'un, écoutez bien, sans aucun mérite de sa part. Ouh ! Sans aucun mérite de sa part. Il y en a des personnes au milieu de nous qui se sont dit « ouais, c'est bon pour les autres, mais ce n'est pas pour moi ». Allez, personne n'a pensé ça. Moi, j'ai pensé ça pendant des années. Exercer les dons, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Les dons spirituels, en fait, ce sont les dons du Saint-Esprit. Alors, on va voir un petit bout plus loin, dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 10, il est écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, écoutez bien, à chacun, est-ce que tu fais partie du chacun ou chacune pour les filles ? Chacun, chacune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de moi. Non, de tous. Pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez ce qui est écrit là, qui revient régulièrement, c'est quoi ? Un autre, un autre, un autre. On a pensé pendant longtemps que c'est le pasteur qui fait tout, n'est-ce pas ? T'es malade, t'appelles le pasteur, il vient, il le guérit. Quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, t'appelles le pasteur, il vient, il fait. Ah ben non alors, dit Bernard. À un autre. Et tout à l'heure, on a dit à chacun, à chacune. Donc, à un autre, à chacun, à chacune. Il y a toi et il y a moi. Il n'y a que mon mari qui dit amen. Mince. Je répète, à un autre, à chacune, à chacun, il y a toi et il y a moi. Amen. Yes! Et attendez les amis, ce n'est pas pour n'importe quoi, c'est pour avoir les dons spirituels. Et quand le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels, c'est comme il ne va pas revenir les chercher. Il ne va pas dire, ah ben, Bernard, je le bénis un jour, mais le lendemain, eh ben, tchao Berthe, je reprends ce don que je lui ai donné. Non, 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 non. Les dons sont là, à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de les activer. C'est à nous de les mettre en route. Amen. Vous êtes avec moi cet après-midi ? En fait, les dons spirituels sont des communications divines transmises par le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit était là quand il y a eu la création de la terre. Le Saint-Esprit était là quand tu as été créé. Le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus alors que Jésus a dit « Moi, je retourne vers le Père, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, celui qui va nous guider, celui qui nous dirige, celui qui nous convainc de péché, celui qui nous aide, celui qui est notre force. » Et il est là, à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qu'on a réalisé et ce qu'on voit dans la plupart des personnes, c'est que ce qui va nous ouvrir une porte très large au fait d'exercer les dons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça nous ouvre une porte pour exercer les dons. En fait, on a été sauvés par la foi le jour où plus fort, où on a donné notre vie à Jésus, mais pour que ça soit réel, il a fallu que Jésus, il fasse quoi ? Il y a eu le sacrifice à la croix. On a été sauvés le jour du sacrifice de Jésus à la croix. Et on a été, tout a été pourvu de la même manière le jour où Jésus a envoyé son esprit sur terre. Le Saint-Esprit, il est déjà là. Le Saint-Esprit, il est en toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans le fait d'activer ces réalités spirituelles, ces dons spirituels. On va relire Actes 2, 1 à 4. Blaise en a parlé tout à l'heure un peu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Un petit peu comme nous cet après-midi. Hein. Ils étaient un petit peu plus nombreux, mais ils étaient ensemble. Au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ce n'était pas un vent violent, mais comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était explosif, les amis. C'était explosif. Et ils ont vécu là quelque chose pour la première fois qui ne s'était jamais vécu, même du temps que Jésus était sur la terre. Ils ont vécu cette réception du Saint-Esprit. Je ne sais pas si, comment vous, pour vous ça s'est passé alors que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, mais pour moi, ça s'est passé de la manière suivante. Je suis née dans une famille chrétienne d'agriculteurs et ce n'était pas qu'on nous saoulait avec les histoires de la Bible et tout ça, qu'on nous mettait de la pression, mais on nous emmenait une fois par semaine dans un groupe de maison à quelque part. Et là, on entendait, on chantait, quelqu'un se levait, amenait une petite exhortation, on priait. Et puis voilà, ça, c'était à peu près ça. On priait avant le repas à table et ma maman, qui avait très très peu d'argent, mettait toujours un petit peu de son argent, du petit peu qu'elle avait, elle le mettait de côté pour pouvoir nous offrir à nous les enfants le lecteur de la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je disais, mais elle n'a rien, puis elle nous achète ce lecteur de la Bible. Et vous savez quoi, quand vous êtes enfant, des fois, vous ne lisez pas tout le temps votre Bible. Et puis après, je me disais, c'est quand même la honte, Edith. Ta maman, elle met de côté, elle ne s'achète pas des trucs pour elle, elle t'achète ça et tu ne lis pas la Bible. J'avais ce genre de choses. Mais ce qui fait quand même qu'on lisait. On avait c'était fait exprès pour les enfants, donc on avait ça. Et en fait, plusieurs fois, j'ai été confrontée aussi à aller dans des rencontres, parce que mon papa, lui, il aimait les rencontres où ça bougeait, il nous disait, où il y avait quelque chose qui se passait. Donc il nous emmenait dans des rencontres charismatiques, où on voyait des choses étonnantes. Et Blaise a raconté tout à l'heure l'histoire de la fille qui avait son doigt qui avait repoussé. On a vu des délivrances en allant dans ces rencontres-là. On a vu certaines choses qui étaient assez extraordinaires. Et en fait, il y avait souvent un appel à la conversion. Et quand tu es enfant de chrétien, tu lèves ta main parce que tu te dis, mais moi, je vais être sauvée. Et en fait, plusieurs fois, j'ai levé ma main comme ça. Mais il y avait quelque chose qui m'a tenu pendant longtemps, jusqu'à mes 18 ans. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me souviens pas que mes parents nous aient parlé de ça ou comme ça, mais j'avais peur du retour de Jésus. Pas le fait qu'il revienne, mais le fait que je ne sois pas prise. Mais c'était... Alors, tant que j'étais avec des chrétiens, ça allait, hein. Et pas de souci, Jésus n'est pas revenu. Mais quand... on me donnait rendez-vous à tel endroit et qu'on me disait je viens te chercher et que la personne avait du retard, une minute ça va, mais 3, 5, 10 minutes, j'étais là, Jésus est revenu et il m'a pas prise. C'est terrible, hein. Et franchement, c'était quelque chose au fond de moi et c'était lourd, c'était difficile. Et en fait, cette peur-là, elle est vraiment partie à l'instant même où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai une cousine un jour qui me fait comme ça, « Ah, dans 3 semaines, je me fais baptiser, ça m'embête d'être toute seule, tu veux venir avec moi ?» Et voilà, j'ai dit, « Ah bah ouais, j'avais vu mon frère, mes sœurs se faire baptiser avant moi, je savais qu'un jour j'allais le faire. » J'ai dit, « Ok, je le fais avec toi. » Et donc je l'ai fait. Et le lendemain, on était dans la petite église de maison, là, où mes parents étaient. Et en fait, il y avait un orateur que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas et qui a parlé du Saint-Esprit. Je ne me rappelle plus tout ce qu'il a dit, mais il a fait un appel pour ceux qui voulaient être renouvelés dans le Saint-Esprit ou qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc moi, je me suis avancée et j'étais la dernière de la ligne là. Et quand il arrive vers moi, il n'a pas eu le temps de me toucher, mais il me fait comme ça. Hier, tu as passé par les eaux du baptême, tu reçois maintenant le Saint-Esprit et c'est parti comme ça a explosé. C'était comme le bouchon de champagne, là, ça a pop. Et j'ai commencé à parler en langue. Justement avec ma fameuse cousine, là, c'était du temps, on avait juste une espèce de synthé, de piano, je ne sais pas comment on dit, à l'époque. Et puis on chantait, elle jouait, on chantait. Et franchement, je me rappelais que je voyais les mots en français, les phrases en français, mais ce qui sortait de ma bouche, c'était du parler en langue. Et j'étais là, je suis rentrée à la maison, je parlais en langue. Je me suis endormie en parlant en langue. Je me réveillais pendant la nuit, je parlais en langue. Le lendemain matin, c'était toujours là. Ça fait une explosion à l'intérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais, jamais, jamais eu le doute que quand Jésus allait revenir, j'allais partir avec lui. Même j'ai eu deux fois des accidents de voiture, mais une fois c'était assez conséquent, vraiment. Bless confirme. Et en fait, ma voiture a glissé sur de la glace et j'ai perdu le contrôle et je suis arrivée dans un ravin et j'ai dit Jésus, j'arrive. Parce que j'étais sur là, cette fois c'est fini. J'ai pensé à rien d'autre. Je dis Jésus, j'arrive. Et en fait, j'avais fermé les yeux et tout à coup j'entends une voix, Madame, ça va? Je me suis dit, je suis au ciel. La voix, c'était. Je me suis dit, c'est un ange. Puis j'ouvre mes yeux et là, je vois de la terre, je vois les feuilles du cours que j'avais été donné. Je dis, ah non, je ne suis pas encore au ciel, ça doit être... Et en fait, voilà, j'étais dans ce ravin et voilà, après, j'ai pu sortir de ça, mais aucune peur. Jésus, j'arrive. Et ça, c'est cette connexion. C'est cette connexion d'esprit à esprit et tu sais que tu fais partie du royaume de Dieu. Et j'aimerais encourager les personnes qui sont là disant « Seigneur, je suis assez bon et tout ». En fait, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est fait, c'est là et il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Peut-être que tu vis dans des choses qui ne sont pas justes, peut-être qu'il y a des choses qui te tiraillent, l'adversaire de ton âme te tient dans des trucs, mais la Bible dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et sa grâce nous poursuit, nous disent certains versets. Donc, Dieu est avec toi, il est pour toi, il n'est pas du tout et jamais il ne sera contre toi. Donc voilà, je voulais juste rassurer une ou deux personnes au milieu de nous. Alors en fait, par rapport à notre vie, notre foi, notre spiritualité, le fait qu'on rentre dans ce royaume de Dieu, on peut se poser les questions, quelles sont les étapes ? Eh bien, pour nous, c'est très simple, c'est croire et accepter le sacrifice de Jésus à la croix. C'est demander pardon pour nos péchés et vivre la repentance en changeant de comportement. Il y a besoin d'être là et puis de dire est-ce qu'il y a un péché que j'ai encore pas demandé pardon? Si vous êtes dans cet état d'esprit là, ça va être compliqué votre vie. Moi, j'ai réglé la chose. J'ai dit Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. S'il y a quelque chose qui n'est pas juste, montre-le-moi et je vais m'en détourner. C'est ça la repentance. C'est changer de chemin. Il y a quelque chose qui t'entrave dans ta vie, un péché, change de chemin. Claque la porte au doute, comme disait Blaise tout à l'heure. Ferme la porte à ce qui te pénalise. Tourne-toi dans une autre direction, dans la direction d'exercer les dons. Ça, c'est quelque chose qui va te motiver. Décider de passer une autre étape, la troisième, décider de passer par les eaux du baptême, autant d'eau, et le deuxième, le baptême du Saint-Esprit. Ça va faire quelqu'un de toi qui est solide en dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et on voit Pierre qui va le dire très rapidement dans les actes. Pierre leur dit, actes 2, 38, 39, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est exactement pour moi comment ça s'est passé. Je sais que pour d'autres personnes, certains peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de passer par les eaux du baptême, c'est pas grave, c'est valable. Et le verset 39, en effet, la promesse, c'est Pierre qui va le dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et Paul va faire aussi quelque chose qui nous montre un petit peu aussi comment on peut prier les uns pour les autres, mais je pense que vous le savez déjà. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. C'est ce phénomène d'imposer les mains qui est plusieurs fois tracé dans la parole de Dieu. Et dans ce que Paul a vécu, on voit qu'il y a deux dons qui sont manifestés ici. c'est suite au baptême du Saint-Esprit. Il y a le fait de parler en langue et de prophétiser. En fait, le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. C'est lui qui nous ouvre la voie aux dons spirituels. Donc j'aimerais vraiment, s'il y a quelqu'un encore ici qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est ton jour. Reçois, on peut prier avec toi, demande-le, demande à quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit de prier avec toi et commence à avoir cette ouverture avec le Saint-Esprit parce que c'est quelque chose qui est puissant. Le parler en langue, la Bible nous dit, va nous édifier. Je le prends comme ça en amont parce que c'est en fait le seul don, le parler en langue qui est pour moi. Paul va dire aux Corinthiens, toujours en Corinthiens 14, 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Écoutez, ça, c'est juste incroyable. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'on dit des mystères. Personne ne le comprend, même pas moi. Moi, si je parle en langue, je ne me comprends pas forcément, à moins que Dieu me donne une interprétation. Mais je ne me comprends pas forcément. Par contre, je fais confiance à ce que Paul a écrit. Je sais que je dis des mystères. Vous aimez un petit peu le mystérieux ? Parler en langue. Je connais des serviteurs de Dieu, j'ai lu de la part de serviteurs de Dieu qui disent que leur prière, c'était plus de 90% en langue et 10% en français. Mais vous pouvez me dire, non, mais c'est bizarre, là. Mais en fait, avant tout, on est esprit. Donc, si avant tout, on est esprit, est-ce que avant tout, on ne devrait pas parler en esprit quand on veut parler avec Dieu? Et 1 Corinthiens 14, 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Ce don est pour nous personnellement. Tu te sens faible, tu te sens malade, tu te dis « Aujourd'hui, je n'ai pas la frite. » Qu'est-ce que tu fais? Commence à prier en langue. Même peut-être avant de dire à ton conjoint ou aux personnes de ton entourage « Je n'ai pas le moral. » Je vous mets au défi. Parce que vous savez quoi, en fait, je sais que vous allez vous passer aussi par des journées un peu pas tout à fait simples. Parlez en langue. Et si vous avez le bonheur d'être avec une personne dans votre entourage qui est aussi remplie du Saint-Esprit, ben prenez le temps de parler en langue ensemble. Encouragez-vous de cette manière-là. Comme ça, vous allez vous édifier bien plus que d'aller rejoindre le doute de la personne de votre entourage qui, elle aussi, rame parfois. Parce que tout le monde rame. Donc, tu veux être fort, augmente ton ton de parler en langue. Et moi, j'ai réalisé qu'en fait, ce parler en langue, en fait, tu peux le vivre partout. Parce que ton intelligence n'a pas besoin d'être là. La Bible nous dit même qu'elle est stérile à ce moment-là. En fait, ça veut dire que tu peux conduire ta voiture et parler en langue. Ça veut dire que tu peux écouter une personne et parler en langue à l'intérieur de ton esprit. Ça veut dire, parce que ton intelligence, elle n'a pas besoin d'être là pour ça. Mais ça te rend fort et puissant. Si on reprend l'ensemble des dons, on voit qu'il y a en fait trois catégories de dons. Et ça, c'est Howard Carter qui était le fondateur de la première école biblique pentecôtiste en Angleterre, qui a été l'un des premiers à mettre en trois catégories. Il y a les dons d'inspiration, ce sont les dons qui disent quelque chose. Il y a les dons de révélation, ce sont, comme le mot le dit bien, les dons qui révèlent quelque chose. Et il y a les dons de puissance, ce sont les dons qui font quelque chose. Donc, dans les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation. Dans les dons de révélation, ce qui révèle, il y a la parole de sagesse, parole de connaissance, don du discernement des esprits. Et puis, dans les dons de puissance, ceux qui font quelque chose, c'est les dons de foi, dons d'opérer des miracles et les dons de guérison. C'est bon? Vous êtes avec moi? On va les prendre, ces trois catégories, un petit moment, et juste, c'est un survol, hein, mais quand même parler par rapport à chacun d'eux. Donc, dans les dons d'inspiration, le don de prophétie, 1 Corinthiens 14, 1 dit, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Surtout à la prophétie. En fait, très brièvement, prophétiser, c'est parler afin de raffermir, d'encourager, de réconforter, d'édifier quelqu'un d'autre. Ça, c'est un don pour les autres. Ce n'est pas un encouragement humain, mais c'est un encouragement divin. C'est quelque chose qui vient du trône de la grâce et qu'on amène pour une autre personne. Et on a besoin d'entendre Dieu, puis de communiquer ce que l'on a entendu. Et je crois que c'est ce chemin-là, écouter Dieu, puis transmettre, il est valable pour tous les dons. Il faut écouter pour pouvoir transmettre. Et il y a diverses manières de recevoir une parole. Ça peut être quelque chose que... Où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans notre esprit, c'est sûr. C'est une connexion d'esprit à esprit. Hein. Tout ce qu'on vit avec Dieu, c'est d'esprit à esprit, parce qu'on est fait esprit, âme et corps. Donc c'est dans notre esprit que ça vient. Mais très rapidement, ça va venir dans tes pensées ou un sentiment profond. De quelque chose tout à coup qui vient en évidence, que tu pensais pas avant. Si tu es sensible, si tu apprends à écouter, tu vas voir que Dieu te parle, mais beaucoup plus que ce que tu penses. Beaucoup de gens me disent, ouais, toi tu entends Dieu, mais moi pas. À moi, il ne me parle pas. Je suis désolée, c'est un gros mensonge de l'ennemi, de ton âme. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle au travers de tellement de choses. Il te parle au travers de la nature. Il te parle au travers de sa parole. Il te parle de cœur à cœur. Dieu te parle. Dieu te parle. Il te parle même dans la nuit, alors même que tu dors profondément. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Tu dors profondément. Tu dis, moi je rêve pas. Taratata. C'est un mensonge, tout le monde rêve. Si tu as envie de connaître tes rêves, demande juste au Saint-Esprit qu'il te les rappelle alors que tu te réveilles. C'est... Oui ?
Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, tout à coup vous vous trouvez dans une situation où vous dites « mais j'ai l'impression de connaître cet endroit, d'y être déjà allé, d'avoir rencontré cette personne », alors que ce n'est pas le cas. Ne serait-ce pas un rêve ? De Dieu.
Donc, on a tout un cours sur prophétiser qui prend des leçons, plusieurs leçons, mais ce n'était pas le but de cet après-midi d'amener ça. Donc, très brièvement, prophétiser, c'est parler pour encourager, édifier, consoler tout un chacun. Et là, ça donne le cadre du prophétique, en fait, du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce qu'entre deux, pourquoi on dit ça ? Parce qu'entre deux, il y a Jésus qui est mort sur la croix et qui a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Et tout un chacun est en relation avec, peut être en relation avec Dieu directement. Les dons, des langues et le don d'interprétation qui va tout de suite après. Ça, c'est les deux nouveaux dons que l'on voit à partir du Nouveau Testament. Parce prophétiser, il y avait déjà des prophètes, juste que c'était les rois, les sacrificateurs, les personnes qui avaient été mises à part qui le faisaient, alors que maintenant c'est valable, c'est accessible à tous les enfants de Dieu. Mais il y a ces deux nouveaux dons qui sont le don des langues et le don d'interprétation des langues. Le don des langues, c'est la proclamation publique d'un message de Dieu dans une langue qui n'est pas comprise ni apprise par la personne qui la donne. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure pour les personnes qui étaient là, où Blaise a donné un parler en langue et ensuite il y a eu une interprétation. 1 Corinthiens 14, 5, il est écrit « Je désire que vous parliez tous en langue. » C'est Paul qui l'a dit. Que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. On reste dans ce côté où on encourage, on édifie, on console, on construit la famille de Dieu et même les personnes qui ne sont pas encore dans la foi. Et le don d'interprétation des langues, c'est donner une interprétation d'un don des langues incompréhensible en un message compréhensible. Ça veut dire que c'est comme tu interprètes de l'anglais au français. Tout à coup, tu entends un parler en langue et tout à coup, toi, tu as une phrase derrière. Alors, je sais qu'il y a différentes manières de fonctionner dans ce domaine-là. Il y a des fois des personnes qui parlent en langue pendant un moment et puis ensuite de ça il y a une personne qui interprète ou bien peut-être même à plusieurs. Nous on a l'habitude de fonctionner phrase par phrase parce que c'est comme ça que ça nous correspond le mieux. On ne dit pas vous devez faire comme ça. L'important c'est que au milieu de vous, dans vos assemblées, il y ait des parler en langue et des interprétations, parce que sinon Paul il dit s'il y a pas d'interprétation et que tout le monde parle en langue et puis s'il y a une personne qui vient et qui connaît pas encore cette manière de fonctionner, elle va pas être édifiée elle-même, elle va dire c'est quoi, c'est farfelu. Alors que s'il y a prophétie, s'il y a parler en langue avec interprétation, Paul va dire, la personne va reconnaître que Dieu est ici. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à genoux et adorer Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Vous invitez votre voisin à l'église et il y a des manifestations spirituelles, les dons qui sont exercés. Et votre voisin, il se met à genoux, il dit, Dieu, j'ai besoin de toi. Waouh! C'est beau, n'est-ce pas? Alors, les trois dons qui sont donc ces dons qui disent quelque chose d'inspiration, c'est le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Ensuite de ça, on arrive au don de révélation, ce qui révèle quelque chose. Et là-dedans, il y a le don de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Le don de sagesse. En fait, nous devons savoir que c'est uniquement Dieu qui a toute la sagesse, qui possède toute la sagesse. C'est lui qui l'a, la sagesse. Et en fait, le don de la parole de sagesse est une partie. Nous, on va donner juste une partie de sa sagesse à lui. On ne va pas pouvoir donner toute la sagesse de Dieu puisqu'on va avoir l'éternité pour tout comprendre. Mais on peut donner une partie de sa sagesse, un fragment qu'il veut nous faire connaître. C'est lui qui nous le révèle. La lecture de la Bible va nous rendre sages, surtout si on obéit à ce que la Bible nous demande, surtout si on la met en pratique. Mais ce n'est pas le don gratuit dont nous parlons ici. Ce don gratuit dont on parle ici, ce don de sagesse, c'est quand tu es dans une situation avec d'autres personnes et vous parlez et vous discutez et vous ne trouvez aucune solution. Vous ne voyez pas la suite, vous ne voyez pas le futur. Et toi, tu es là, tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu parles en langue et tout, et tout à coup, tu as une pensée. Si tu as l'audace à ce moment-là de la partager, tu risques bien de voir après les autres dire « Ça vient d'où ton truc là ? Pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» C'est « the solution ». C'est vraiment ce qu'on a besoin pour aller plus loin. Ça, c'est une parole de sagesse. Et ça peut toucher toutes les sphères de la société, peu importe où vous êtes, si vous êtes dans le cadre d'une église, ou si vous êtes dans un travail, ou si vous êtes dans votre famille, vous pouvez, ce don de sagesse vous est accessible. Alors, moi, je vous encourage à l'utiliser, parce que c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Le don de la parole de connaissance. En fait, c'est la révélation d'un fait particulier au sujet de quelqu'un, d'un endroit ou d'un événement qui n'a pas été obtenu par des moyens naturels. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui t'en a parlé. Par exemple, Jésus et la Samaritaine. Ils ne se connaissaient pas, ils ne se parlaient pas. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Et en fait, Jésus va lui dire, tu as raison de dire que... Parce que quand on exerce ce don de parole de connaissance, on peut peut-être recevoir un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un numéro de rue, un numéro de voiture, une date de naissance, une couleur. On peut, je ne sais pas, il y a différentes choses. C'est des détails qui concernent la personne, mais... souvent, ça va concerner le passé, quelque chose que la personne a vécu. Par exemple, parfois, il m'arrive de dire « Cette nuit, à telle heure, tu t'es réveillé parce que tu es en train de prier ou tu avais un rêve et tu t'es réveillé et tu as vu sur ton réveil, c'est 3h15. » C'est quelque chose du passé. Pourquoi Dieu révèle ce genre de choses? C'est juste pour que, à quelque part... la personne qui entend ça se dit « Ah, ça, c'est moi !» Parce que la plupart du temps, si on donne des paroles de connaissance comme ça, sans détail, même que toi-même, tu vis le truc, tu sais, tu dis « Ah ouais, moi, j'ai... par exemple, j'ai mal à une hanche. Ah, mais je pense que c'était pas pour moi. » Peut-être c'est qu'en Suisse qu'il y a ça. Mais en Suisse, ça nous arrive... On entend quelque chose, on dit « Ah ouais, moi j'ai ce problème. Ah ouais, non, mais je pense que la personne qui est juste 3 rangs devant moi, là, elle a plus besoin que moi. Ça devait être pour elle. Et on ne prend pas pour nous. » Et dans les paroles de connaissance, souvent, il y a des détails qui font que tu sais que c'est toi. Que c'est pour toi. Parce que tu l'as vécu, tout simplement. Tu sais qu'à 3h15, tu t'es réveillé, tu as regardé ton réveil, tu dis « Ah, c'est 3h15. » Et tu t'en souviens. Vous comprenez? Et en fait, souvent, c'est juste un détail que tu commences à donner quelque chose et ensuite, tu pars dans le fait d'encourager, de donner quelque chose pour encourager les gens. Ça va jusque-là? Et le don de discernement des esprits. Ça, c'est un don que j'apprécie aussi beaucoup parce que cette accessibilité-là qu'on a de discerner les esprits va nous aider pour les esprits qui sont bons, mais aussi pour les esprits qui sont mauvais. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à quelque part puis vous dites bizarre. Bizarre ici. Et moi, je vous encourage. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je peux raconter, Daniel, ce que tu disais par rapport à la rue où vous aimeriez aller. Je peux le dire. Daniel et Bernard nous racontaient qu'en fait, ils aiment aller dans les rues, bénir les rues et dans les quartiers. Et ils savent qu'à un endroit ici, dans cette ville, ils doivent aller le faire. Et ils savent qu'il y a des choses qui sont pas nettes, qui se passent dans cette... C'est aussi, on peut avoir entendu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes dans ce qui se passait, qui étaient bizarres, mais c'est aussi du discernement des esprits. Et moi, j'aimerais vous rendre attentif à, quand vous sentez ça, amener la présence de Dieu. Faites un shift d'atmosphère. Amener la présence de Dieu. La plupart du temps, pendant longtemps, on a eu un peu peur dans les milieux chrétiens parce qu'on s'est dit, oh, là, c'est les sorciers qui agissent, donc il faut qu'on parte. Non, allez-y. Mais priez, amenez l'évangile, amenez des personnes qui connaissent encore pas Dieu à Jésus, parlez de Jésus, n'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus fort que tous ceux qui sont autour de nous. Donc pourquoi avoir peur, pourquoi avoir souci d'aller dans un quartier où c'est sombre, où c'est difficile? Non, on y va, on prie et on dit « tout lieu que foulera la plante de mes pieds », la Bible dit qu'elle nous le donne, donc on le prend par la foi au nom de Jésus. On a commencé à prier, à marcher dans les rues et dernièrement, on a déjà fait le demi-tour de la ville où on est. Et je me réjouis de faire l'autre demi-tour et en proclamer qu'on veut cette ville pour Jésus. On veut que les promesses qui ont été faites pour la ville de Vevey s'accomplissent. Et on est là, on marche et par la foi, on le fait, on le proclame. On amène le ciel sur la terre. Déjà dans la prière. Et on est convaincu que ça va le faire après aussi dans l'exercice. Et donc, on va pouvoir aller et voir une grande moisson d'âmes. Donc, le don du discernement des esprits, c'est autant pour les choses négatives, comme je viens un peu de parler, mais c'est aussi pour les choses qui viennent de Dieu. C'est le don du discernement des esprits qui va nous permettre de sentir les vagues du Saint-Esprit dans une rencontre. C'est lui qui va, en fait, à quelque part, ce don du discernement des esprits, savoir que, OK, là, maintenant, on peut faire l'appel à la conversion, des personnes vont se tourner vers Jésus. Ou, là, maintenant, c'est le moment, on va prier pour des baptêmes du Saint-Esprit. Ou, là, maintenant, c'est le moment, on va prier pour la guérison des malades. Et on va voir des choses qui sont faites. Dieu ne fait pas tout un tutti frutti là de tout en même temps. Le Saint-Esprit est là, prépare nos cœurs et tout à coup, on peut cueillir, on peut surfer là-dessus. J'aimerais vraiment libérer ce don du discernement des esprits pour que vous puissiez voir une différence alors que vous allez poursuivre votre route avec le Saint-Esprit. Percevoir, le don du discernement des esprits nous aide à percevoir le monde spirituel de Dieu et aussi de l'ennemi de nos âmes. Et ensuite, on arrive, et c'est la dernière catégorie, c'est les dons de puissance. C'est ceux qui font quelque chose. Les dons de puissance. Dans le premier don de puissance, c'est le don de foi. Et le don de foi, pourquoi ? Ben, pour recevoir des bienfaits, par exemple, surnaturellement, Blaise a raconté tout à l'heure, de la nourriture qui se multiplie, de l'essence alors qu'on loue Dieu et qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture. Ou par exemple, tout à coup, il a été saisi par un don de foi. On était en train de monter une montagne et il a son téléphone portable qui sonne. Et en fait, on était en train de se dire, c'est le temps qu'on déménage, qu'on change de lieu de vie où on était. Et il y a le téléphone qui sonne et il parle. Et tout à coup, il arrête son téléphone et je le vois courir en arrivée en haut de la montagne. Après, on avait une magnifique vue là, sur toute la région. Et il était là, « On va habiter à Maracon !» Je disais, « Mais il raconte quoi ?» Et en fait, le téléphone qu'il avait eu, c'était avec un ami de l'église qui lui disait, « Il y a possibilité d'acheter une maison dans ce village. » Mais il avait juste entendu ça, que déjà écrit, ce don de foi était actif en lui, écrit, « On va habiter à Maracon !» Ça, c'est un don de foi. Et effectivement, on a habité pendant 10 ans à Maracon. Ce don de recevoir des bienfaits, Abraham, Isaac, Joseph, qui déclarent juste avant leur mort les bénédictions pour leurs enfants. Un don de foi qui est manifesté à ce moment-là. On peut avoir un don de foi pour notre protection personnelle. Par exemple, Daniel, dans la fosse aux lions, il n'a pas prié, il n'a pas chassé les démons. Jésus, quand il dort en pleine tempête, c'est un don de foi, Et comme je disais, une alimentation surnaturelle. Élie, qui a été nourrie par les corbeaux, la manne dans le désert et mes beaux-parents qui ont reçu une choucroute. Le don de foi va t'amener à dire et faire des choses surnaturellement. C'est sûr et certain. Ce n'est pas des choses dans le naturel, mais c'est dans le surnaturel. Et ce qui est inspiré par Dieu, puis déclaré par l'homme, finira par s'accomplir. Et il y a les deux choses. Il faut que ça vienne de Dieu et il faut que ça soit déclaré pour qu'on puisse voir un don de foi être manifesté. Ensuite, il y a le don de guérison. Et le don de guérison, j'aime bien parce que guérison, il y a S. à guérison. Ça veut dire qu'il y a cette possibilité de différentes maladies, différentes manières de guérir. Dieu guérit surnaturellement les malades par le biais d'une personne qui prie. Ça peut être la personne elle-même ou ça peut être quelqu'un qui prie pour une autre. Et c'est le seul don dans la liste qui est au pluriel. Jésus guérissait tous les malades. Il n'y a pas, la Bible ne nous raconte pas une histoire où un malade est venu vers Jésus et il n'a pas été guéri. Ça n'existe pas. Guérissait tous les malades. Donc, on peut encore y aller, hein ? On peut encore y aller. Et ce qu'on a réalisé aussi, c'est que certaines personnes ont un certain succès sur certaines maladies. Vous avez déjà remarqué ça ? Et c'est assez souvent quand même, quand toi-même, tu as été guéri de quelque chose, tu sais que Dieu peut le faire, donc tu as une audace, tu as quelque chose de... Allez, Blaise était guéri de l'asthme, et ben, il va prier régulièrement pour des personnes qui vont être guéries de l'asthme, parce qu'il sait que c'est possible. Il l'a vécu lui-même. Donc, découvrez quelle est votre zone de grâce par rapport au don de guérison. Et comment vous allez le savoir ? Comment vous allez savoir qu'au travers de vous, Jésus va permettre que des couples puissent être fertiles ? Comment vous pouvez savoir que des maux de tête vont partir ? Comment vous pouvez savoir que des aveugles vont voir ? C'est en priant pour les gens. Si vous ne le faites jamais, vous ne verrez pas. Mais si vous vous dites, je vais saisir chaque opportunité, chaque personne qui vient vers moi, ou moi-même, quand je suis malade, j'ai ce réflexe de prier le Père au nom de Jésus pour que j'obtienne ma guérison ou que la personne soit guérie, un jour ou l'autre, c'est sûr et certain, tu vas voir des miracles. Tu vas voir. Et c'est vraiment ce que Jésus s'attend qu'on l'en fasse, les amis. Ce n'est pas rien qu'une belle théorie. C'est vraiment ce que Jésus attend que l'on fasse. Et il y a le dernier qui est le don d'opérer des miracles. Ça, c'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle les lois de la nature sont modifiées. Tout à l'heure, Blaise racontait l'histoire que la pluie ne tombe pas sur un bout de terrain, un bout de chemin. Ça, c'est normalement un orage, quand il pleut, ça tombe, quoi. Mais là, les lois de la nature sont modifiées, suspendues ou contrôlées. Exemple biblique, la séparation de la mer Rouge. C'était un don d'opérer du miracle. Jonas, 3 jours dans un poisson, même si on dit qu'il y a des gros poissons. Mais tout de même, 3 jours. Ça devait sentir bizarre. Peut-être qu'il a eu le Covid. Les odeurs ne l'ont pas traumatisé comme ça. Il n'en parle pas, en tout cas. 3 jours dans un poisson. Waouh. 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont nourris par 5 pains et 2 poissons. Ouais, les amis, et encore, il y avait des restes. Juste au passage, 12 corbeilles avec 12 disciples. Pas mal, hein ? Ils ont pu remporter à la maison. Ça, c'est le don de miracles, des miracles. Waouh ! En fait, on a réalisé que le Saint-Esprit est responsable, comme le dit Paul, de la distribution des dons. Mais les amis, nous sommes en tant qu'enfant de Dieu, responsable de l'exercice des dons. Le Saint-Esprit distribue, la Bible nous dit à chacun, selon ce qu'il veut, comme il veut, mais nous sommes responsables de l'exercice des dons. Alors j'aimerais vraiment vous mettre au défi, chacune et chacun, de, à quelque part, peut-être relire cette liste de 1 Corinthiens chez vous et de vous dire quel est le plus facile pour moi. Moi, j'aime bien commencer par les choses que ça me paraît possible. Et vous commencez par cette semaine à exercer un don, celui qui vous paraît le plus facile. Et la semaine prochaine, de continuer, de le faire encore une fois, une troisième fois, jusqu'à ce que vous vous dites, ah, ce don-là, ok. Et ensuite, vous relisez les dons et puis vous prenez celui qui est un tout petit peu moins facile pour vous. Et vous l'exercez, vous l'exercez. Vous savez quoi ? En fait, le Saint-Esprit ne va pas venir et puis te saisir et dire, maintenant, c'est à toi, vas-y. Le Saint-Esprit est un gentleman. Et il attendra toujours que tu te mettes en action. Il t'attend, en fait. Il est là, il y a tout qui est là. Et le cadeau est là, c'est rempli. La malle des dons spirituels est remplie. Elle est là, à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu oses. Il faut juste que tu sortes de ta zone de confort. Et parce que notre zone de confort, c'est de dire, ah, ouais, bah, ça arrive. Ça arrive. Ah, je connais aussi quelqu'un qui a vécu comme toi. Sortir de ta zone de confort, c'est plutôt de dire, tu sais quoi, je connais quelqu'un qui est mort à la croix pour qu'il puisse y avoir une différence dans ta vie. Et si tu es d'accord, je vais prier avec toi. Et là, tu te mets en route avec un des dons, des 9 dons qu'on a parlé cet après-midi. Et ça va t'aider, en fait, à juste être un disciple de Jésus. Juste être un disciple de Jésus. Parce que je vous rappelle la mission qu'il nous a donnée, Jésus, avant de monter au ciel. Il l'a donnée à ses disciples. Et quand Jésus parlait à ses disciples, c'est valable pour nous aujourd'hui, en 2021. Annoncer la bonne nouvelle, ce qui veut dire amener les personnes de notre entourage à Jésus. Baptiser autant d'eau et d'esprit. Il y a combien de temps que tu n'as pas baptisé quelqu'un ? Il y a combien de temps que tu n'as pas prié pour qu'une personne soit remplie du Saint-Esprit ? Oh, mais ça, c'est le pasteur qui fait. Où tu lis dans la Bible que c'est le pasteur qui le fait ? C'est les croyants, c'est l'ordre de mission que Jésus nous a donné. Guérir les malades, il nous l'a demandé. Chasser les démons. Quel est le dernier démon que tu as chassé ? Est-ce que tu as témoigné à quelqu'un que tu as eu ce privilège de pouvoir libérer une personne qui était sous l'emprise d'un esprit méchant ? Et Blaise le disait tout à l'heure aussi, ressusciter les morts. C'est vrai que ça, c'est une bonne pub pour l'évangélisation. Donc, ces dons nous ont été donnés alors que Jésus a envoyé son esprit sur la terre pour que nous puissions accomplir notre mission, non pas naturellement, mais surnaturellement. Et jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel en nous, il faut qu'on le fasse encore et encore. Amen. Ce sont des très bonnes habitudes de vie, très très bonnes. Et en fait, faites-le et commencez à partager autour de vous ce que vous vivez, autant vos succès que vos échecs, parce que vous allez encourager les personnes qui vont être dans votre entourage. Vous allez juste faire en sorte que d'autres se disent « Oh, Étienne, il a osé, mais alors moi aussi je veux y aller ». C'est ça qui se passe en fait, ça devient contagieux. Parce que je le fais et d'autres se disent « Oh ben, si Judith, elle le fait, moi je peux aussi le faire. » Et juste pour terminer, mais très très rapidement, parce que des fois, quand on parle des dons, on confond un tout petit peu les dons spirituels. Et puis, parce que la Bible, elle parle aussi dans Éphésiens 4:11, les dons des ministères. Et on se dit, ah, c'est quoi tout ça ? Il y a les dons spirituels, puis il y a les dons des ministères. Et dans Éphésiens 4:11, il est parlé d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes et d'enseignants qui ont, eux, des dons spirituels qu'ils vont aussi exercer. Mais ces dons de ministère, ce sont les personnes comme Bernard, Daniel, des personnes que Dieu a choisies pour être mises à part pour exercer, pour aider des personnes comme moi, comme toi, à exercer justement les dons spirituels, à faire en sorte que le royaume de Dieu s'étende. Ce n'est pas, comme on a cru un peu trop longtemps, que c'est eux qui font tout le job. Non, ils équipent les saints à exercer les dons spirituels, entre autres. Donc les évangélistes, ils amènent les gens à être sauvés, ils libèrent la manifestation des miracles, des signes et des prodiges dans l'Église. Les évangélistes, c'est ceux qui, dans ton Église, arrivent rarement seuls à ta porte. Ils ont souvent quelqu'un de leur famille, quelqu'un dans leur travail, quelqu'un. Ça, c'est les vrais évangélistes. Ils amènent, parce que c'est des gens qui parlent de Jésus et qui disent, viens voir dans mon église, tu vas voir, tu vas entendre des chants, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu ailleurs. Ça, ce sont les évangélistes. Ils amènent des personnes à rencontrer Jésus. Ensuite, il y a les pasteurs, ce sont ceux qui agissent comme en fait des bergers, des brebis de... C'est eux qui vont s'occuper des brebis de Dieu, des enfants de Dieu. Et eux, ils vont apporter le réconfort, le soin, la protection. Ils s'occupent des gens, ils les aident. Les gens arrivent, ils disent qu'ils ont des dépendances. Mais tu sais quoi, c'est pas si grave, je vais prier avec toi et tu vas t'en sortir. Ils prennent soin des personnes qui sont déjà dans... la famille de Dieu. Et il y a les prophètes, ce sont ceux qui révèlent le cœur et l'esprit de Dieu au peuple et qui fournissent une vision, une direction. Le prophète, il voit plus loin et il va aider à tirer toute une équipe plus loin que là où on en est. Il y a les docteurs ou les enseignants, c'est eux qui vont faire en sorte que tu comprends. Ils vont amener la compréhension des choses qui sont surnaturelles, naturelles. Ils vont amener l'instruction et la formation. Ils vont permettre au peuple de Dieu de grandir et de répondre pleinement à l'appel de Dieu, justement. Ils vont faire que, en fait, les valeurs, les réalités du ciel soient plantées en toi et que tu sois vraiment sur le fait d'être solide dans ta foi. Ça, c'est les enseignants qui vont le faire. Et puis, il y a les apôtres, c'est ceux qui mettent parfois de l'ordre dans l'Église pour que tous les autres dons puissent fonctionner. Ils vont établir également les croyants individuellement dans leur position de ministère. Ils vont ouvrir des espaces. Ils vont dire, les apôtres, ils vont dire « c'est possible ». On va y aller. Le prophète, il voit quelque chose et l'apôtre, il va dire, on va là-bas. On va se donner les moyens. On va y arriver. On va le faire. Vous comprenez un petit peu? Ça, c'est les dons de ministère d'Éphésiens 4 au verset 11. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé. Est-ce que c'est assez clair pour vous? C'est un peu complet, je suis consciente de ça, mais on avait du temps, donc voilà, je me suis dit c'est peut-être bien de poser des bonnes bases pour que personne ne se dise, ce serait dommage vraiment que vous repartiez de cet endroit puis que vous vous dites, ah ça c'est pour eux, mais c'est pas pour moi. Ça, je peux vous dire que c'est un des plus grands mensonges de l'ennemi de nos âmes. De nous faire croire que les autres, c'est pour eux. Les autres, ils y arrivent, mais nous, ça, c'est une erreur. Mais est-ce qu'il y aurait une question? Oui. Je pense que oui. Du moment que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne repart pas. Hein. Il est là, il est en toi. La Bible dit que par rapport au baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que, en fait, en imposant les mains, les personnes vont recevoir et ils vont se mettre à parler en langue. Et c'est là la confusion qu'il y a eu peut-être pendant assez longtemps, c'est que des personnes attendent. On prie avec elles, puis elles attendent. Elles ne se mettent pas à parler. Mais la Bible ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui parle. Elle dit que c'est le croyant qui parle. Alors, commence à parler en langue. Au début, tu vas dire shakadabada, ko shakadaba. Mais plus tu vas le pratiquer, plus tu vas l'exercer dans ta chambre, alors que tu fais ton temps de prière, sous la douche, dans la voiture, peu importe, plus tu vas l'exercer, plus le vocabulaire peut venir. Mais même, de toute façon, on ne va pas comprendre. Et c'est ça qui est le plus dur pour nous, qui aimons tout comprendre, c'est qu'on ne comprend pas. Mais la Bible nous dit qu'on dit des mystères. Donc oui, je crois qu'on sait quand on est rempli, quand on a le baptême du Saint-Esprit. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ? Oui. Comment on a appelé un ministère ou pas ? Dieu va te le dire. Alors, il y a multiples façons. Il peut te le dire à toi personnellement, mais la plupart du temps, il va le confirmer par d'autres. Mais de toute façon, il ne va jamais obliger quelqu'un à aller dans un ministère. Il y a, moi, je vous assure, Blaise, il a eu, quand il est né, il y a eu des paroles. À sa présentation d'enfant, il y a eu des paroles. À son baptême, il a eu des paroles. Après, on s'est marié, il y a eu X paroles. Un jour, on est allé dans une rencontre et on était là et on savait, c'était des prophètes, on les connaissait, ils les avaient déjà prophétisés sur notre vie, entre autres par rapport au ministère. Et dans la voiture, Blaise, il me dit, en tout cas, une chose, je ne veux plus aucune parole par rapport au ministère, parce que de toute façon, il n'y a aucune porte qui s'ouvre pour moi, donc non, plus rien. Puis moi, je me dis, ouais, ben, si Dieu veut parler, il parlera. Hein. Voilà. Et ça n'a pas loupé. Alors, quand on s'était assis exprès tout au fond, tu sais ce que tu dis, on boit moins quand je suis tout au fond. On était assis tout au fond, voilà. Et la personne a donné une parole, et c'est cette parole-là qui a ouvert la première porte. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, non seulement toi-même tu le sais, mais les personnes autour de toi, dans ton leadership, vont aussi le sentir, le voir, et ils vont pouvoir confirmer ça. Ouais, très bonne question. Quelqu'un d'autre aurait une question ? Vous êtes tous OK ? Vous êtes tous partants ? Qui c'est qui a envie d'exercer un don qu'il n'a encore jamais exercé ? Yes ! Merci Jésus ! Et vraiment, je vous mets au défi. Soit dans votre église, soit dans votre entourage, votre famille, au travail. Mais, pardon ? Dans la rue même, allez-y. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est avec vous et il va vous aider à réussir. Alors, j'aimerais peut-être juste, si j'ai encore 2 minutes, par rapport à l'église locale. Parce que chez Bernard, ici, je peux ressentir un tout petit peu qu'il y a une grande liberté et tout ça. Peut-être des personnes viennent dans un endroit où il n'y a peut-être pas cette ouverture par rapport au don spirituel. Ne fracassez pas la baraque. Ne soyez pas, ne dites pas, je suis allée à Angers, il y avait Edith et Blaise, ils ont parlé de prophétiser. Et demain matin, quand vous êtes dans votre célébration, et je veux prophétiser, donnez-moi le micro. Déjà, si vous faites ça, que vous venez à Vevey, on ne va pas vous donner le micro. Je suis désolée de le dire un peu comme ça, mais comme ça, c'est clair. Mais si vous recevez une parole demain, alors que vous êtes dans votre église locale, là où vous avez l'habitude d'être, allez vers le pasteur ou, je ne sais pas, les responsables et dites simplement, Étienne, j'ai l'impression que Dieu veut dire quelque chose. Est-ce que je peux te le partager ? Est-ce que je peux te le partager ? Et si Étienne me dit, mais oui, vas-y, je vais le lui dire. Et après, je vais me rasseoir. Celui qui parle, en fait, de la part de Dieu, n'est pas responsable de l'application. Donc, parce que ça a amené beaucoup de tensions. Et je sais que les pasteurs, parce qu'on est aussi dans ce domaine-là, on n'aime pas quand on veut à quelque part, une personne qu'on ne connaît pas veut absolument être sur la scène et avoir le micro. il faut qu'on exerce les dons en pleine confiance. Il faut que vos leaders puissent avoir confiance en vous. C'est pas que la parole elle est fausse, c'est pas même s'il la dit pas, même s'il n'en fait rien, c'est pas que votre parole est fausse. Mais dimanche prochain, vous êtes là, Dieu vous parle, vous savez qu'il vous parle, vous savez que c'est pour l'Église. Étienne, il me semble que Dieu m'a dit quelque chose. Est-ce que je peux te le partager? Et ce qui se passe dans notre Église quand les gens font ça, c'est qu'au bout d'un moment, tout à coup, tu te rends compte, oh, mais dis donc, reçois bien des belles choses. Et il y a une confiance qui vient, il y a quelque chose, on crée quelque chose ensemble, et un jour, peut-être, je lui donne le micro. Mais pas forcément tout de suite. Donc, ne soyez pas, comment il faut le dire, frustrés parce que vous ne pouvez pas le donner au micro, mais dites-le à quelqu'un, ça c'est votre responsabilité, dites-le à une personne qui est en poste de leadership, et ne soyez pas frustrés parce qu'il ne reprend pas la parole, mais persévérez dans votre écoute, affinez encore votre écoute, et surtout, une chose, je peux vous donner un petit conseil là, soyez très bref. Ne lui parlez pas pendant 10 minutes parce qu'il va dire « Ouh là là !» Parce que lui, il n'a pas reçu. Étienne, il n'aura pas reçu ce que moi j'ai reçu. Et si je viens et que je lui parle pendant un quart d'heure d'une parole que Dieu m'a donnée pour l'Église, il ne sait plus quoi en faire. Mais soyez très succinct, donnez une, deux phrases, exercez-vous avec ça. Mais ne retenez pas, ne gardez pas des trésors que Dieu vous donne alors que vous pourriez bénir beaucoup plus large. Et petit à petit, priez pour que dans votre église, là où vous êtes, là où il puisse y avoir des terrains d'entraînement, qu'il puisse y avoir une confiance qui arrive et qu'un grand nombre de personnes puissent entrer dans l'exercice des dons spirituels. Et pour prier pour les malades, et ben ça, vous êtes, je ne sais pas, même dans un ascenseur, la personne en face de vous dit « Oh là là, j'ai tellement mal à la tête aujourd'hui. Si tu veux, je peux prier pour toi. » La personne, la plupart du temps, elle croit que tu vas prier, aller à l'église pour prier pour elle, si vous êtes dans un contexte catholique. Et tu dis « Merci Jésus ». Si la personne dit « Oui, oui, je suis d'accord. Merci Jésus parce que ce mot de tête disparaît. Amen. » La personne, elle est là, la porte s'ouvre et il repart. Il doit sortir. Tu as fait. Tu as exercé ton don par rapport à la guérison. Et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Ça va? Vous êtes partant? Yes, c'est trop bien. Encore une question? Oui. Oui. Tu vas aller dans quoi? Qui dit oui? Qui a envie d'exercer les dons? Il y a juste une chose que moi, il y a juste une chose que j'aimerais dire. C'est qu'en fait, si on était tous de l'église de Bernard, je ne pense pas que ça poserait souci. Maintenant, comme je disais, je ne connais pas de quelle église vous venez. Je ne sais pas si ça se pratique chez vous. Je ne sais pas l'ouverture de vos pasteurs chez vous. Et je n'aimerais pas que ce soit quelque chose, en fait, qui fasse barrière. Et que, parce que je connais aussi, parce que voilà, on est dans des pastorales et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont frileuses par rapport à ça, parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, qui se sont passées. Mais par contre, je pense qu'un don qu'on pourrait activer au milieu de nous, c'est par rapport de prier pour les malades. Tu es OK, Bernard? Est-ce qu'il y a des malades au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont mal? Oui, alors levez-vous, c'est ça que je vous demande. Ce n'est pas une honte d'être malade. Hein. De toute façon, un jour ou l'autre, on a tous un souci. Super. Et maintenant, Alors, il faut garder les distances, c'est un peu compliqué tout ça, mais on peut le faire. J'aimerais qu'il y ait au moins 3 personnes qui prient pour une personne qui est debout en ce moment. 3 personnes. Et dans ce cadre-là, écoutez Dieu, priez par rapport à la maladie, écoutez Dieu et laissez-vous inspirer. Mais rappelez-vous qu'on est là pour aimer, pour édifier, pour consoler, pour guérir. Ça vous va ? Aucune condamnation. Aucune condamnation. Vraiment. On n'est pas là pour juger nos frères et sœurs, on est là pour les aimer.
C'était ça. On est vraiment là pour bénir, OK ? C'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a fait je ne sais pas tout quoi... qu'il a péché, que ses ancêtres ont péché. Que... Des fois, on est très vite à pointer du doigt. Concentrez-vous sur libérer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, pour que la personne puisse être restaurée. Amen. Donc, aucun jugement, aucune condamnation. On est là pour libérer la grâce et bénir. Or, ceux qui sont encore assis, dirigez-vous vers quelqu'un et commencez à prier, à bénir cette personne pour qu'elle vive une guérison. Ça marche ?
Voilà. Et effectivement, nous allons procéder à cela, on va prendre le temps. J'avais, je pense, une parole de connaissance, mais c'est à moitié. En fait, c'est une parole pour Priscille. Et Priscille, c'est ma fille, alors je la connais bien. Donc c'est un peu compliqué de dire une parole de connaissance. Mais Priscille a des soucis physiques et le Seigneur te dit tu t'attends à recevoir des guérisons, et je crois qu'il te dit commence à prier pour la guérison des autres, parce qu'au fur et à mesure tu verras ma main sur ta vie physique, la tienne. Donc t'en as peut-être marre que les gens prient pour toi et que tu ne vois pas la guérison, et le Seigneur te dit je t'encourage au travers de ce qui a été dit cet après-midi. Je t'encourage à commencer à prier pour la guérison des autres et tu verras. Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis ton père, mais voilà, je, en toute liberté, je le dis. Et peut-être que après avoir prié, hein, on fait ça, cet exercice-là, on fait. Voilà, et puis après, on prendra peut-être un temps où on mettra de la musique et puis peut-être que Blaise... Edith et Étienne pourront venir là et puis exercer un ministère de parole de connaissance. Hein, ça vous va ? Voilà. Donc, je vous invite à ceux qui sont assis là à aller prier pour ceux qui sont debout. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire. Parce que justement, il me semble qu'il faut que l'Église, les personnes dans l'Église s'exercent. Et voilà, tout simplement.
Peut-être juste, vous n'avez pas besoin de demander tout le parcours du combattant, de la maladie. Dites juste le souci que vous avez, mal à la tête, mal ici, tac. Ouais. Ça suffit. Et les autres, vous n'avez pas besoin de faire une prière de 3 pages. Au nom de Jésus, sois guéri, que cette douleur parte, etc. Très simple, OK ? Direct. Allez-y, on vous libère. Est-ce qu'il y a une personne qui a eu un choc à un moment donné? J'ai eu cette image de quelqu'un qui a glissé sur le bord d'un trottoir, il y a comme eu un choc, et puis ça, les cervicales se sont comme tassées, puis ça crée une douleur sur la nuque, sur les cervicales. C'est vraiment comme suite à un accident, un choc, où tu as glissé, peut-être même tu es comme tombé. Et c'est comme Seigneur vient redonner l'espace dans ces cervicales qui ont été comme tassées suite à ce choc. Il y a quelqu'un qui est concerné par ça? Par un problème de choc, d'accident? Si c'est toi, tu as eu ça? Comme le coup du lapin? Ok. Au nom de Jésus, on croit que ça se rééquilibre et que ces cervicales prennent leur place maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez glissé? Oui? Oh! Merci Jésus. Au nom de Jésus, on libère la grâce de Dieu, l'onction, que ce dos, ces cervicales, il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui touche maintenant et qui vient restaurer complètement. Plus aucune conséquence de cet accident, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a aussi une personne qui a assez régulièrement comme une extinction de voix. C'est comme si ta voix s'étouffe. Il n'y a plus le volume qui sort normalement. Ça touche quelqu'un qui est affecté régulièrement. Tu peux t'avancer, on va prier juste avec toi. Et je voyais ses cordes vocales être renforcées, être touchées par la puissance de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui se passe aussi des problèmes allergiques. Comme je vous l'ai dit moi-même, j'avais ces soucis-là avec des crises d'asthme, des soucis respiratoires et tout problème d'allergie était vaincu. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelques personnes ici, ça touche en tout cas 3 personnes qui ont des soucis allergiques. Ça peut être de digestion ou du souffle, des allergies qui créent des troubles respiratoires. Avancez-vous aussi. S'il y a une parole de connaissance, c'est que Dieu a l'intention de guérir et de toucher. Donc si ça touche des problèmes allergiques, j'ai l'impression aussi comme des verrues qui vont partir. Des corps étrangers aussi qui vont être dissous, des nodules qui vont disparaître dans la puissance du nom de Jésus. Donc si vous êtes concerné par des corps étrangers qui ont besoin de partir, des diverticules, je cherchais le mot, des diverticules au niveau intestinal, approchez-vous, on va prier que ça soit dissous dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est à quelque chose. Hein. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Koli shata baba. Lord, he praise. Lord, he praise. Lord, he praise. Gloire à toi, Jésus. Il y a aussi quelque chose que je vois dans mon esprit. On est vraiment, il y a une onction de guérison qui est là. Des gens qui ont de l'arthrose dans les mains et des douleurs dans les doigts au niveau des articulations des mains. Et il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire comme avant. Ça peut être du. Pour des dames de tricoter ou de. Et ça, il y a ces douleurs dans les mains. Peut-être même ça va juste sur le tunnel carpien. Si c'est vous, avancez-vous. On va prier que cette arthrose qui s'est mise dans les articulations soit dissous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est concerné par ça? Les mains douloureuses, les articulations? Ouais. Venez simplement, on va prier pour vous. Et puis si vous avez à cœur dans la salle de venir prier pour ces gens qui s'avancent, avancez-vous et venez prier. Vous êtes croyant, vous pouvez bénir ces gens et qui puissent recevoir la guérison. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Wow. Lord, he praise. He shandala koli. Lord, he shatababa koli. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Wow, tu avais quelque chose, Edith. Tu avais quelque chose. Merci, Jésus. Show place. Lord, Ike. Lord, Ishando, Loko, Ishando. Tu avais une parole de connaissance?
Non. Voilà, on va exercer le ministère. Je vais demander à Samuel, qui est pasteur à Cholet, et puis à Philippe, qui est pasteur à la Flèche, de venir et d'exercer avec tous les autres le ministère. Voilà, en toute liberté, si vous recevez quelque chose pour l'un ou pour l'autre, voilà, pour que ce ne soit pas exclusivement... enfin, c'est Samuel qui a proposé, et je dis, ouais, très bien, allons-y, quoi. Allons-y. Je voudrais juste commencer avec Stéphane pour dire que tu as déjà entendu dire que le Seigneur voulait t'utiliser. Et je pense que l'enseignement, même si tu l'as déjà entendu, l'enseignement d'aujourd'hui, là, de cet après-midi, le Seigneur est en train de te dire, Stéphane, c'est pour ça, il faut que tu te lances, il faut que tu ailles, faut pas que tu attendes que tout d'un coup les choses se fassent, il attend maintenant, en fait le Seigneur t'attend toi. Et toi, tu es en train de dire, mais Seigneur, je t'ai attendu depuis si longtemps. Et lui, il dit, mais c'est moi qui t'attends. Et j'attends que tu te lances. Là, peut-être qu'aujourd'hui, il attendait que tu te lèves pour prier avec des gens, alors que tu es là en disant, je ne suis pas sûr d'être capable, d'être appelé. Il y en a peut-être qui sont mieux que moi. Mais le Seigneur aurait peut-être bien voulu que tu te lève et que tu ailles prier pour les gens. Et donc, ne laisse pas passer la prochaine fois ou un dimanche, etc. Ne laisse pas passer le temps parce que le Seigneur est en train de te dire, mais il y a des choses que tu ne vis pas malgré les promesses parce que tu ne te mets pas en route. Faut te lever et puis il faut que tu t'y mettes, quoi. Hein, voilà. Voilà, ben écoutez, voilà. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ?
Oui. C'est pas une parole prophétique individuelle, mais on a parlé du parler en langue.
On va baisser un peu la musique, s'il te plaît, Moïse. Merci.
Par rapport au parler en langue, je voudrais juste qu'il n'y ait pas de quelque chose de religieux, un carcan qui soit mis sur ce don-là. Qui pour moi est un don spirituel comme les autres, c'est-à-dire que Dieu nous donne tout et puis on a rentré dedans aussi. Mais personnellement, j'ai mis plusieurs années à parler en langue alors que je donnais des paroles prophétiques. C'est peut-être de ma faute de ne pas avoir réussi à pratiquer, à exercer ce don plus tôt, mais il n'y a pas forcément une corrélation entre, pour moi, être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue tout de suite. C'est quelque chose qu'il faut qu'on désire, comme les autres dons, quelque chose qu'il faut qu'on exerce, comme les autres dons. Et j'aimerais peut-être prendre un temps pour ceux qui aimeraient rentrer dans l'exercice de ce don-là, pour que ce n'est pas nous qui allons parler à votre place. Par contre, ce qu'on peut, c'est juste vous imposer les mains, peut-être, à nouveau, si ça a déjà été fait, et être dans l'encouragement, d'être dans une atmosphère où vous allez être peut-être plus réceptif et à l'aise pour lâcher la raison, peut-être, et puis laisser le cœur s'exprimer comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes, peut-être ici, qui ne parlent pas en langue et qui se disent, ben, moi, j'aimerais me lancer, j'aimerais avoir... pouvoir expérimenter, exercer cette manière de parler à Dieu et de prier, juste d'oser venir, et puis on va très simplement et très rapidement prier pour vous, et puis vous laisser la possibilité de vous exprimer, et puis vous pourrez aller retourner, vous asseoir ou vivre ce que l'Esprit vous propose de vivre. Donc voilà, je vous invite juste à venir, et puis on va prier pour vous. Et puis, soyez libres de parler, d'exprimer, le charabia qui va peut-être venir. Et en fait, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment... je me rappelle, on a prié plusieurs fois avec mes parents. Je me rappelle, on était dans le salon, mes parents qui priaient pour moi. J'ai dit, il n'y a rien qui vient. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je le veux. Ce don, je le veux. Et j'ai dit, par contre, je ne veux pas... je veux pas dire du charabia. Je veux être sûr que ce que je dis vient de toi. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande que à chaque fois que je parle en langue, je ressente quelque chose de ta présence, que j'ai un ressenti. Et en fait, c'est venu quelques semaines après, où quand j'ai commencé à dire des choses tout, voilà, comme un bébé qui fait bah, bubi, bobu, mais avec quelque chose de profondément, un ressenti. Et j'étais sûr que c'était le Saint-Esprit qui me poussait et que c'était un vrai parler en langue. Et moi, ça a été ma manière de m'assurer, d'être en confiance, que c'était vraiment le don du parler en langue que j'exerçais à ce moment-là. Et après, voilà, après, on s'habitue, on sait comment ça marche, on apprend à discerner et y a notre intelligence qui dit, bah là, oui, je veux exprimer quelque chose en langue, et puis c'est le Saint-Esprit qui vient parler. Donc voilà, en toute simplicité, n'hésitez pas à venir, et puis on va juste prier pour vous quelques secondes, et puis prenez le courage, ayez l'audace et la confiance de vous lancer. Amen.
Voilà, s'il y a d'autres personnes, approchez-vous.
Le Seigneur s'adresse à une personne en particulier ce matin. Elle va se reconnaître, elle vient de très loin. Elle est arrivée il y a peu de temps en France, enfin quelques mois, pas plusieurs mois. Et elle se pose encore des questions par rapport à Jésus. Et le Seigneur veut te dire ce soir, j'entends tes interrogations. Tu demandes une conviction, mais tu as chez toi encore des choses qui ne sont pas à ma gloire. Tu les as chez toi par ignorance encore. Confie-toi à des frères et à des sœurs qui t'expliqueront. Demande-leur de venir chez toi pour te montrer, que le Saint-Esprit leur montre ce qui est en abomination à l'Éternel. L'Éternel te dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le jour où, dans l'obéissance, tu feras disparaître ces idoles de chez toi, je te bénirai et tu auras la conviction que je t'aime. Amen.
J'avais une parole pour toi. C'est quoi ton prénom ? Oui. Élodie. T'es jeune, mais je vois sur toi vraiment un cœur maternel. Et je pense que tu vas avoir à cœur. Et je pense que c'est ta manière d'être aussi avec les gens, d'avoir un cœur maternel, pas seulement pour les enfants que tu pourras avoir, mais pour les gens en général, une attention, un désir de nourrir. Je voyais, voilà, comme tu vas donner du lait à des personnes qui ont besoin, dans l'esprit, dans leur vie spirituelle, dans leur démarche de foi, vraiment de donner ce lait maternel qui est dans le réconfort, qui est dans la prise de soins, qui est dans l'amour. et qui est dans le désir de voir grandir, de voir s'épanouir. Et voilà, c'est juste un encouragement que Dieu connaît ce cœur qu'il a mis en toi et qu'il se réjouit à l'avance de voir s'épanouir et en fait que tu n'hésites pas parce que c'est Dieu qui donne les ressources. Et on n'est jamais trop jeune pour aider les autres, pour leur donner ce qu'on a déjà reçu. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup reçu pour donner déjà ce qu'on a reçu. Et il y a vraiment ce cœur maternel, vraiment. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Ça va bénir beaucoup de gens.
David, tu entres dans une saison nouvelle, tu en es conscient, parce que les choses se sont bousculées en toi. Cet après-midi, dans la première rencontre, on parlait d'avoir soif. Et à un moment donné, tu n'avais plus soif, mais tu n'avais plus soif... pas simplement parce que tu n'avais plus soif, mais tu avais aussi été tellement déçu, tellement blessé, que tu semblais plus trop trouver ni ta place, ni du sens, en tout cas en ce temps-là. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et la question, c'est mais jusqu'où le Seigneur va m'emmener ? Parce que tu sens que tu es pris. En fait, je crois que l'idée, c'est cette parole qui dit, Ézéchiel, je rentre dans l'eau et j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis, j'avance un peu et c'est jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusque là. Et puis, finalement, je suis emmené. Et le Seigneur te dit, je suis en train de te faire passer ces étapes où l'eau, tu marches dans l'eau de plus en plus profonde. Mais ne crains pas parce que ce n'est pas un torrent tumultueux qui t'emmène n'importe où, parce que le Seigneur dit, je vais t'emmener plus loin, mais en contrôlant, parce que c'est moi qui contrôle. Et il te dit, n'aie pas peur, même si tu as peur, même si tu crains, n'aie pas peur, parce que c'est moi qui contrôle. Et puis il te dit, n'aie pas peur non plus pour ta famille, parce que je suis là aussi, quelque part au contrôle, et que dans cette partie-là aussi, je suis. Je ne suis pas juste avec toi pour t'entraîner, mais j'ai en vue l'ensemble de ta famille, et je prends soin d'elle parce que je l'aime. Le Seigneur aime ta famille, donc voilà, c'est un encouragement que le Seigneur veut te donner, de ne pas rester juste avec la cheville ou au genou en disant ben, « c'est suffisant, c'est déjà mieux que ce que je vivais avant ». Mais laisse-toi entraîner parce que le Seigneur a d'autres choses en vue pour toi. Et il souhaite que tu avances avec, peut-être avec la trouille, mais en tout cas avec foi, malgré tout. Peut-être pas avec une grande audace, mais parce que ce n'est pas non plus dans ta personnalité. Mais le Seigneur dit, j'ai commencé à faire un nouveau travail en toi et je vais continuer à le faire pour autant que tu acceptes de continuer à marcher dans le torrent et à te laisser à un moment donné complètement porter par moi, parce que c'est moi qui vais contrôler les choses. Parce que tant qu'on a les pieds, tant qu'on a pied, on a pied, quoi. Il y a un peu d'humain. Mais le Seigneur dit, c'est par étapes que les choses se passent avec délicatesse. Et le Seigneur te dit, je serai délicat avec toi et avec ta famille. Alléluia.
J'ai une parole pour l'Église. Il y a un temps qui vient où ce lieu va être rempli d'une louange puissante. Et je voyais que cette louange... Je voyais comme les murs qui tremblaient ici. Et c'est parce que spirituellement, il va y avoir une louange vraiment très présente, continuellement, et une louange forte qui remue les choses dans l'esprit, dans le monde spirituel, au-dessus de la ville et au-dessus du pays, et qui fait vraiment bouger les choses. Et y a là un petit fond musical du piano, c'est chouette. Mais il va y avoir vraiment du monde qui va être là, et une louange qui fait vraiment bouger énormément les choses dans le monde de l'esprit. Et voilà, cette saison vient, et comme c'était dit, y a des attentes qui sont là, et des choses en gestation, et Dieu prévoit que ça arrive. Et il peut y avoir de la frustration de dire, on n'est pas... La louange paraît compliquée, il n'y a pas beaucoup de personnes en ce moment, il y a ceci, cela. Bon, en tout cas, l'avenir est là, de la louange puissante qui va être vraiment bonne pour l'Église, mais largement au-delà. Parce que ça ne fait pas seulement bouger les murs spirituels de cette Église, mais bien au-delà. Voilà.
Merci. Merci, merci. Je partageais à la maison de prière jeudi de cette semaine-là que une de mes prières et de mes recherches en ce moment, c'était... Vous savez, on entend des fois des chanteurs. Voilà, et puis ils ont une telle voix, il y a une telle musique qu'on en est ému. Hein, vous sentez ça aussi? Moi, je ne suis pas très musicien, mais donc je suis peut-être moins sensible qu'un louangeur, on va dire. Mais voilà, ça me... des fois, il y a de la musique comme ça où ça me prend aux tripes, comme on dit. Et ma prière en ce moment, je vous le partage comme ça très librement, c'est que je puisse être au ciel et entendre et être ému par la louange, l'adoration, la contemplation, les danses des anges et du Seigneur, parce que le Seigneur il danse aussi, dans les cieux. Et donc ma prière en ce moment, c'est « Seigneur, je souhaite monter te voir et voir ce qui se passe dans les cieux, pour que je puisse être impacté, ému, transporté, que je puisse pleurer tellement c'est ce que j'entends, c'est beau. Voilà, je vous partage ça simplement pour que peut-être que vous avez envie de vivre ça aussi. Des fois, alors je comprends, hein, les gens, comment on peut monter dans le ciel et entendre. Mais voilà, enfin, je vous dis, en tout cas, c'est une de mes prières. Je pense que ça vient parce que si le Seigneur me met à cœur ce type de prière, c'est qu'il veut me le donner de vivre, mais pas seulement moi. Voilà, on va dans je vous avais déjà dit, hein, mais dans les semaines qui viennent, là, on rentre de vacances, donc on ne sait pas trop encore, mais on va essayer de voir comment faire en sorte que nous puissions être éduqués pour voir les anges, pour avoir comment dire, des partenariats surnaturels, sans être après mystique et toujours la tête dans le ciel, comme disait Blaise. J'aime avoir la tête dans le ciel, mais quand même les pieds sur terre. Donc c'est vraiment ça, quoi. Mais on nous a tellement dit que c'était pas possible, c'était mystique, que c'était dangereux, etc., que finalement on s'est fermé à l'idée. Alors c'est pas juste pour rechercher le fun et quelque chose d'original, mais c'est pour que nous puissions vivre. J'allais dire que le surnaturel devienne quelque chose de naturel, quoi. Que comme on respire, on puisse se voir. Mais pour ça, il faut qu'on apprenne. Et pour apprendre, ben, il faut pouvoir être ouvert. Parce que si on se referme, ben, forcément, on ne va pas pouvoir vivre. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment on fera, parce que j'en sais rien, comment on fait. Mais j'ai noté ce que Edith disait. Il faut faire des exercices. Il faut s'exercer. Ça ne tombe pas comme ça tout cuit ou tout seul, mais il y a un engagement de notre être. Il faut qu'on dise oui au Seigneur, mais pas seulement oui. Après, je ne sais pas comment... si on a un atelier, je ne sais pas comment le faire. Je vous dis ça simplement comme ça, quoi. Parce que je ne sais pas comment procéder. Mais c'est en tout cas dans le cœur pour que... Moi, ce qui me gêne des fois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans notre communauté qui voient des anges. Et ça m'embête, quoi. Non, ça m'embête parce que des fois, quand je partage que je vois des anges, etc., j'ai la trouille que... vous dites, ça y est, Bernard, il a le melon. Il est orgueilleux, lui il voit des anges, il se croit plus spirituel que d'autres, et c'est gênant, parce que c'est pas du tout l'idée. En fait, quand je vous partage ce genre de choses, c'est parce que j'ai... Comment dire ? Je voudrais que vous soyez animés d'une sainte jalousie, et de dire, mais moi aussi je veux. Voilà, c'est juste ça, et dans ce cas-là, qu'on essaye de voir ensemble comment l'Esprit-Saint peut nous amener de plus en plus dans le surnaturel divin. Pas pour avoir des expériences et dire « ça y est, je vois des gens, c'est super », mais c'est parce que ce n'est pas une finalité en soi. Il faut que ça serve à quelque chose pour le royaume de Dieu. Et donc, voilà, je vous partage ça simplement... Je suis en famille demain après-midi. Ça va pour vous ? Ben Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ce temps que nous avons passé, pour ce temps, cet après-midi, avec les enseignements, avec les partages de ministère, mais aussi les partages autour du verre de l'amitié. Nous te demandons, Esprit Saint, enfin, nous voulons te dire d'abord que nous voulons vraiment marcher avec toi, quoi. Et que nous souhaitons, pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos assemblées, nous te demandons une nouvelle saison où nous entrons plus en partenariat avec toi. Aide-nous à ne plus simplement dire « Viens Seigneur, accompagne-nous et bénis-nous ». Aide-nous à te dire ben, « On a envie de savoir où tu vas pour te suivre, pour t'accompagner ». Et nous te demandons, Seigneur, que tu viennes changer nos mentalités afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison que tu veux, pas seulement pour nous, mais on voit que c'est mondial et que tu es en train d'agir et d'intervenir. Et on ne veut pas juste, nous, regarder les autres au loin en disant « Ouais, c'est super ce qu'ils vivent, on voudrait, mais on veut vivre. » Aussi, dans dans l'action de l'Esprit Saint avec l'Esprit Saint en partenariat. Et voilà, Seigneur, on te dit, il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas comment s'y prendre. On veut, avec humilité, t'avouer notre incapacité. Et en même temps, on veut tellement avoir confiance en toi. Et nous disons que nous avons confiance en toi. Et nous disons que même si on n'a pas pu jusqu'à présent vivre ce que nous rêvions de vivre, nous proclamons, nous attestons que c'est maintenant le temps. Et que tu es en train de changer, de transformer l'atmosphère déjà dans nos cœurs, et puis dans nos groupes de maison, dans nos assemblées, etc. Comme tu es en train de changer aussi les choses dans notre société, et tu es en train de préparer notre société à manifester ta grâce, à ce que ta grâce et la manifestation de ton esprit soient manifestées au milieu d'elle. Et nous te remercions de ce que tu ne veux pas faire cela sans nous. Donc c'est pour ça que tu nous remues, que tu nous bouscules, que tu nous remets en question. Et nous sommes d'accord avec toi, Seigneur, pour dire, nous ne voulons pas vivre ce que nous avons vécu il y a 10 ans ou 20 ans, parce qu'on veut vivre des choses nouvelles, parce qu'on veut être dans la direction du vent de l'Esprit-Saint. Nous voulons voir, entendre, sentir, comprendre, discerner, afin d'aller par là, avec toi. Garde-nous de l'orgueil, de nos prétentions, de notre amour-propre qui parfois veut prendre ta gloire. Et nous te demandons pardon, Seigneur, à chaque fois que nous nous servons de toi pour nous-mêmes. C'est des fois tellement présent dans nos cœurs, dans nos vies. On ne veut tellement pas se l'avouer. Et pourtant, parfois on se sert de toi pour notre cause. Et nous te demandons pardon. Et nous te disons, Seigneur, ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que nous savons que tu ne veux pas donner ta gloire à quelqu'un d'autre. Et nous ne voulons pas voler ta gloire. Donc viens, aide-nous, reste humble et à te suivre. On a besoin de toi, Seigneur. Ah, on a besoin de toi. On crie au secours, Seigneur. Mais en même temps, nous sommes convaincus que tu entends la sincérité de nos cœurs. Et c'est pourquoi nous te demandons que viens pallier à nos carences, à nos erreurs, à nos jugements, à nos critiques, à tout ce qui n'est pas bon. Viens, Seigneur, et transforme. Alors, mais pourvu que tu puisses être glorifié. Seigneur, j'ai hâte de voir dans la rue les gens applaudir parce qu'il y a une guérison. J'ai hâte de voir les non-chrétiens t'applaudir et dire comme dans l'Évangile, tout ce que Dieu fait est formidable. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être, nous, des entraves, mais plutôt aide-nous à favoriser ta gloire dans cette ville, dans cette région. Nous t'en prions. Chacun à notre niveau. Et puis, avec les groupes dans lesquels nous sommes. Et je continue, en tout cas j'espère fidèlement, à te prier pour les autres églises de cette ville, en te demandant de les bénir. Seigneur, nous ne sommes pas la meilleure église, et tu le sais. Il n'y en a pas de meilleure. Il y a tous, il y a que, il y a des hommes et des femmes qui t'aiment et qui veulent marcher avec toi. Et nous voulons te demander de nous aider en tant qu'assemblée à trouver la forme de la pièce de puzzle que nous sommes et qui va pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres afin que ton nom puisse être glorifié. Et nous voulons te demander ta bénédiction sur les autres églises et assemblées parce que nous le croyons, parce que nous le désirons vraiment et parce que nous pensons que tu ne vas pas juste prendre une assemblée pour manifester ta gloire afin qu'elle ne s'enorgueillisse pas, mais tu vas en prendre plusieurs et tu vas agir et nous te demandons qu'il en soit ainsi. Glorifie-toi dans notre ville. Glorifie-toi dans notre région. Change et transforme ce qui doit l'être dans ton peuple d'abord. Et fais de nous des instruments de ta gloire. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Et nous avons soif de te présenter au public pour que le public puisse t'ovationner. Ah Seigneur, donne-nous, pas juste que ce soit un rêve ou une prière, mais fais de ce rêve, de cette prière, une réalité. Amen. Eh bien les frères et sœurs, à demain.